monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des dossiers d'intérêt pour les femmes et la jeunesse.
C'est dans la presse.
Depuis le 25 octobre 2018, le président éthiopien est une présidente, Salewak Zewde, nommée par les parlementaires après la démission de Mulatu Teshome. Madame Salewak a été représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU auprès de l'Union africaine, ambassadeur en France, à Djibouti et au Sénégal et représentante de l'Éthiopie auprès de l'IGAD. Lors de son discours d'investiture, elle a salué les réformes du Premier ministre Abiy Ahmed, notamment le gouvernement strictement paritaire dont les ministères de la Défense, de l'Industrie et de la Paix ont été attribués à des femmes. La présidente a promis de se concentrer sur le rôle des femmes en vue d'assurer la paix et a appelé le gouvernement à éradiquer la pauvreté avec la pleine participation des femmes. Bien que l'essentiel du pouvoir soit aux mains du Premier ministre en Éthiopie, le président dispose d'une importante influence sociale. Et pour mieux connaître ses points forts, Eki Abadou a joint à New York Tsige Chifero, journaliste originaire d'Éthiopie.
Disons qu'elle a une excellente connaissance du continent africain puisqu'elle a été pendant plusieurs années directrice du Bureau Afrique sous le régime de Meles Zenawi. C'est une ancienne ambassadrice et pendant cette période où elle était directrice du Bureau Afrique au ministère des Affaires étrangères, elle avait constitué une très très forte liaison avec quasiment tous les diplomates qui représentaient leur pays auprès de l'Union africaine. J'en ai été témoin à plusieurs reprises puisque nous nous connaissions et c'est quelqu'un qui était très au courant de ce qui se passe et les diplomates allaient souvent vers elle pour avoir une idée de ce que son gouvernement comptait faire sur certaines questions. Et puis, elle a aussi avec elle son expérience onusienne qui ne peut que être bénéfique pour un Premier ministre qui, au niveau international en tout cas, n'a peut-être pas l'expérience nécessaire.
Dans les mentalités, justement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir peut-être une évolution grâce à cette parité? Est-ce que c'est un signe qui peut vous donner un optimisme quelconque, en tout cas une envie de voir les lignes bouger?
J'ose l'espérer. C'est quand même quelque chose de nouveau. C'est un gouvernement qui est jeune pour une population qui est extrêmement jeune. Donc ce sont des nouveaux repères pour une société dont la moyenne d'âge est autour de 25 ans, si ce n'est moins. Donc c'est un nouveau modèle à suivre. On a l'impression, je parle peut-être avec beaucoup d'optimisme, mais on a vraiment l'impression qu'une page de l'Éthiopie de l'Éthiopie a été tournée, où on a à présent un leader avec un état d'esprit ouvert, contrairement à ses prédécesseurs qui n'ont pas toujours fait preuve d'ouverture d'esprit envers leur propre population.
C'était la journaliste américano-éthiopienne Tsige Chifero. Sachez que depuis le 24 octobre 2018 au Libéria, l'inscription en université publique est gratuite pour les étudiants du premier cycle. Il en a été décidé ainsi par le président George Weah, qui avait dit avoir été alerté par des universitaires sur les difficultés financières rencontrées par les étudiants pour s'inscrire. L'incapacité des jeunes à poursuivre des études a un impact négatif sur leur capacité à jouer un rôle positif dans le développement du pays, avait-il déclaré.
Parole de femme.
Au Burkina Faso, l'excision est interdite, mais de nombreux enfants et jeunes filles en sont encore victimes. Notre correspondant s'est rendu dans un centre hospitalier à Kaya lorsque 10 filles étaient hospitalisées des suites de complications d'excision. Selon l'hôpital, ces dernières étaient arrivées dans un état critique et il fallait agir vite pour éviter le pire. Lamine Traoré a d'abord parlé au docteur Honoré Tenderi, chef du département gynécologique et obstétrique.
Il s'est agi pour nous de réparer les séquelles d'excision et surtout arrêter l'hémorragie parce que ici c'était l'hémorragie qui était la priorité et ensuite faire les soins locaux pour éviter l'infection.
La ministre est sous le choc. C'est un drame. Laurence Ilboudo.
Je suis choquée aujourd'hui. Depuis des années, nous prônons l'arrêt de ces pratiques parce que ça ne peut aider la femme à progresser. Et il est vraiment déplorable aujourd'hui de constater qu'il y a encore des parents qui continuent à s'adonner à cette pratique.
À Ouagadougou, nous sommes cette fois-ci au centre médical protestant Chifra, l'un des grands établissements sanitaires de la capitale. Ici, le constat est amer. 41 filles qui ont entre 10 et 21 ans sont-elles aussi victimes d'excision? Les séquelles peuvent être très graves, jusqu'à la reproduction de ces filles. Docteur Dieudonné Ouédraogo est le responsable du service gynécologique et obstétrique de ce centre médical protestant.
Au vu du type d'excision et des infections qui s'annoncent déjà, si on ne fait rien, elles vont mal cicatriser. Il y aura beaucoup de séquelles pour leur vie sexuelle et aussi pour leur vie de reproduction, notamment l'accouchement.
La pratique des MGF, mutilation génitale féminine, est illégale au Burkina Faso depuis 1996. Mais force est de constater que la pratique demeure répandue dans plusieurs parties du pays. Le gouvernement veut sonner la fin de la récréation en appliquant la loi dans toute sa rigueur. La ministre de la Femme, Laurence Ilboudo.
J'ai vu mon collègue de la justice qui a saisi le procureur. Les voies judiciaires vont être mises en branle parce qu'il faut que les gens comprennent que l'excision est interdite. Les lois doivent être appliquées dans leur rigueur.
Début octobre, Amnesty International, l'ONG de défense des droits de l'homme, via sa section du Burkina, a déclaré dans un communiqué l'urgence de protéger les filles contre les mutilations génitales féminines. En 2015, 67,6% des femmes burkinabées, âgées de 15 à 49 ans, déclaraient avoir subi l'excision, selon une enquête multisectorielle continue. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Une adolescente béninoise qui a obtenu le baccalauréat à l'âge de 15 ans, férue de lecture et d'écriture et passionnée du 7e art, a publié son premier roman à 17 ans. C'est Mélissa Winsou, un nom à retenir. Xavier Fagboun lui a tendu le micro, voici son reportage.
17 ans et déjà romancière, Mélissa Delali Winsou est la nouvelle révélation de la littérature béninoise. Sa première parution, Un pari dangereux, a été un pari gagnant.
Je suis écrivaine depuis mon bas âge, depuis la classe de CE1. J'écris parce que c'est ce que j'aime et j'ai commencé par écrire parce que les mots me permettaient de mettre sur du papier ce que je ressentais. Par rapport à mon roman Un pari dangereux, je l'ai écrit un peu sur un coup de tête. Mais j'aime bien dénoncer les problèmes psychologiques, j'aime bien dénoncer les coups bas de la vie. Donc c'est parti tout seul. Les chapitres sont venus au fur et à mesure que j'écrivais. C'est une romance sulfureuse avec des personnages au charme parfois discret, mais au charme parfois un peu plus tempéré.
Paru le 1er juillet aux éditions Jet d'encre, Un pari dangereux est l'histoire de Catherine, 25 ans. Violée à 16 ans, elle développe une rancœur pour la jante masculine. Un roman de 282 pages qui a séduit les lecteurs.
La plume de Mélissa est une plume en maturation. Parce qu'elle s'inspire de tout ce qu'elle voit. Elle ne reste pas juste calquée sur ses réalités, mais elle découvre. Donc tous les lecteurs peuvent se découvrir en elle et en sa plume. Ce qui m'a captivé dans le livre, c'est comment Mélissa a décrit les endroits. Des fois, on a l'impression qu'elle a vraiment été là-bas. Sa manière de décrire est originale. Mettre en valeur ce qui est caché, ce qu'on ne peut pas comprendre dès le début, et le montrer d'une autre manière.
Après Un pari dangereux, Mélissa s'intéresse maintenant à la science-fiction et au drame avec ses histoires, La planète aux yeux verts, déjà achevée, et Tentation en édition, encore en cours de rédaction. Comme toute adolescente, elle a un rêve et des ambitions.
L'écriture, c'est une thérapie pour moi. Quand je n'écris pas souvent, je suis stressée. Donc j'aimerais toujours continuer par écrire. Mais également, j'aime bien l'univers du cinéma. Donc j'aimerais écrire des scénarios. J'aimerais également être psychologue, comme je l'ai dit, parce que la santé mentale est très importante pour moi.
Le rêve d'écrivain de Mélissa Winsou est de pouvoir impacter par ses mots, car pour elle, lire n'est pas seulement ludique, mais aussi didactique.
des jeunes pouvaient.
Comme dans la plupart des pays de départ de migration clandestine vers l'Europe, la réinsertion de plusieurs jeunes de retour en Guinée se fait graduellement et leur réadaptation à la vie active n'est pas toujours aisée. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, a donné la parole à certains de ces jeunes rentrés dans leur pays après des moments particulièrement difficiles.
La Guinée a été citée ces derniers temps parmi les pays de forte dynamique migratoire. Des jeunes candidats au départ ont tous le même rêve, sortir du pays pour trouver le bonheur. Mais après un échec, ces migrants guinéens gardent encore de tristes souvenirs de leur mésaventure. Mariam Condé a connu le désert avant de se retrouver en Libye.
Arrivé à Agadez, on nous embarque dans un petit pick-up de 10 places. Nous étions au nombre de 33 personnes. Et arrivé à un certain niveau, le chauffeur nous dit de descendre dans le véhicule. Et directement, on nous envoie dans une maison de prostitution. Nous, on est resté là-bas 3 mois. Et ils nous ont obligés d'appeler nos frères ici pour qu'on nous envoie au moins 600 000 CFA. Alors que le pasteur ne nous a pas expliqué ça. Donc on a eu des maltraitances. On nous frappe à chaque fois, on nous battait. J'ai obligé de faire tous les travaux forcés.
À chacun son histoire, celle de Mariam a commencé par la vente d'un véhicule qui appartenait à son oncle. Elle voulait devenir journaliste, alors que Fodé Mohamed, lui, a utilisé l'argent de son activité de vente de crédit téléphonique.
L'arabe a pris le moteur. Lui, il nous a avancé jusqu'à un certain niveau. Il nous a dit que là-bas, maintenant, que les sécuristes allaient venir pour nous secourir. Le moteur qui se trouvait sur le Jeugec, il a enlevé ça, il a mis sur l'air lince. Il nous a laissé là-bas. On est resté là-bas jusqu'à le lendemain 16h. Les secouristes ne sont pas venus. Maintenant, la mer nous fait revenir en arrière. Il y avait des pêcheurs égyptiens qui étaient à côté de nous. C'est eux qui nous ont secourus pour nous faire retourner en Libye.
Contrairement aux deux premiers, Kourma Kanti, lui, avait choisi le Maroc.
Bon, quand je suis rentré au Maroc, je ne connaissais personne. J'ai appelé la famille, je leur ai dit que le type qui m'a fait voyager, son numéro ne passe pas. La famille aussi a tenté son numéro, ça ne passait pas. Bon, je suis resté là-bas 2 jours sur la route comme ça. Directement, ma grand-sœur a appelé l'intéressé. L'intéressé m'a hébergé durant une semaine. Quand j'étais là-bas, je souffrais, je ne gagnais pas du boulot. Ce n'était pas facile, la vie du Maroc.
Après 6 mois au royaume chérifien, il peine à trouver un emploi. Depuis 2017, l'Organisation internationale pour les migrations assiste au retour volontaire de plus de 900 jeunes Guinéens. Certains réussissent à lancer des projets de réinsertion économique, d'autres comme Kourma Kanti, doivent encore entendre.
Au moment qu'on était là-bas, on nous avait dit quand vous rentrez, on allait vous donner ici 1500 euros chacun. Quand nous sommes venus, ils nous ont dit, bon, c'est pas l'argent cash qu'on va vous donner. On va vous donner d'abord le projet de 45 jours. Après ce projet-là, vous allez se regrouper en 15 personnes, nous soumettre ici vos projets. Mais on a tout fait, on a fait ces projets-là, on les a soumis, les projets, mais jusqu'à présent, ça ne va pas.
Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Et oui, l'immigration a bien souvent un caractère économique. Le manque d'emplois et de perspectives d'avenir pousse en effet de nombreux jeunes à quitter leur propre pays sans mesurer les réels dangers. La situation des jeunes face au chômage sur le continent nous mènera ici en Mauritanie, où notre envoyé spécial à Nouakchott, John Lyndon, a approché la jeunesse non dorée confrontée à cet épineux problème.
Comme beaucoup de jeunes en Mauritanie, Mustapha, dont le foyer compte 2 femmes et 10 enfants, peine à joindre les deux bouts. En cause, le chômage qui frappe durement les jeunes.
Si tu travailles, il faut que tu dois avoir des gens qui ont te connu pour que tu travailles. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas travailler. Même si tu as tes papiers et tu viens, tu ne peux pas travailler. Si tu n'es pas avec quelqu'un de connaître, tu ne peux pas travailler.
Et son cas n'est pas isolé. Mais les jeunes ne baissent pas les bras. Dans ce quartier populaire de la capitale mauritanienne, Harouna Barry, qui dénonce le manque d'accompagnement des jeunes, a décidé de prendre son destin en main en ouvrant une boutique.
Avant de faire cette boutique, j'ai travaillé avec des boutiques là-bas au 5e, c'est là-bas qu'on travaillait avec quelqu'un d'autre. Donc avec ça,
on ait appris donc comment faire les boutiquets et comment encore améliorer notre travail, et ainsi de suite. On a eu l'idée encore d'ouvrir une boutique, et c'est assez l'idée, donc on a développé l'idée et on a fait cette boutique, et grâce au grand Dieu, on a pu avancer petit à petit.
Le petit commerce, une voie peut-être salutaire pour beaucoup de jeunes en Mauritanie. Fatou, qui a ouvert avec son mari une boutique où elle vend poissons et légumes, semble s'y accrocher.
Ça va, on se débrouille seulement. C'est dur quand même, mais on se débrouille petit à petit.
Pour Chexi, qui a travaillé dans l'événementiel et pendant des années comme taximan, la solution au problème du chômage des jeunes en Mauritanie devrait venir du gouvernement avec, à la clé, des formations gratuites.
Ce que je vois pour le gouvernement, plus est la jeunesse, qu'il n'y a pas beaucoup de centres de formation gratuites. Donc les centres de formation, il n'y en a pas, en tout cas, c'est des centres de formation. Si tu n'as pas les moyens d'aller pour payer, c'est très difficile pour aller trouver une centre de formation gratuitement.
Reste à souhaiter que ce cri du cœur soit entendu dans un pays où les jeunes représentent 60 à 65% de la population. John Linden, VOA Afrique, Nouakchott.
Et si la jeunesse pouvait.
On n'arrête pas le progrès en Côte d'Ivoire où l'ONG Iwozone a doté les élèves d'Alepia de cartables solaires pouvant alimenter une lampe pendant 3 heures. Les écoliers font 10 km par jour et rentrent chez eux à la tombée de la nuit. L'idée vient d'Evariste Akoumian, qui a créé l'entreprise SolarPack. Il a vendu près de 60 000 cartables et en exporte au Gabon, au Burkina Faso, à Madagascar, en France et en Allemagne. Monsieur Akoumian croule même sous les commandes et espère monter une unité d'assemblage à Abidjan.
Entre parenthèses.
Le centre Aklala Batik à Kpalimé au Togo forme des jeunes filles en situation de vulnérabilité au métier de la couture et la teinture. Certaines de ces filles sont victimes de viols ou de mariages forcés. Allons à la découverte du centre et de ses pensionnaires à travers ce reportage de notre correspondante Kay Lawson.
Yawa est une adolescente de 17 ans. Il y a 2 ans, elle a été victime d'un viol. Un acte à l'issue duquel elle s'est retrouvée enceinte. Aujourd'hui mère d'un petit garçon d'un an, elle essaie de se reconstruire dans le centre Aklala Batik. Apprentie à la section couture, Yawa est encore sous le traumatisme de son agression.
Lorsque j'avais 15 ans, un homme m'a violée et j'ai enfanté. Je ne connaissais pas l'homme. Un dimanche soir, je suis allée en ville. À mon retour, il était nu et l'homme m'a eu et puis il m'a violé. C'est très difficile. Cet homme a détruit ma vie.
Des histoires de filles victimes de violences sexuelles comme celle de Yawa, il y en a à foison dans le centre Aklala Batik créé par Chantal Donwire qui explique les motivations de ce centre et de ses intentions.
J'ai créé le centre pour pouvoir regrouper ces jeunes filles pour qu'elles soient insérées dans la société. Après, on reçoit 4 différents types de jeunes filles. Les filles qui ont perdu leurs parents, les filles que leurs parents n'ont pas des moyens, mais les filles même veulent apprendre un métier. Les filles que leurs parents veulent donner au mariage forcé et les filles qui sont violées. Parce que j'ai remarqué que ces 4 genres de filles qui ont tellement le désir de faire quelque chose, mais qui ont perdu leur confiance à soi-même.
Le centre Aklala Batik forme ses pensionnaires à la teinture du pain batik et à la couture. Au-delà de l'apprentissage d'un métier, elles sont initiées à l'entrepreneuriat et coachées sur le développement personnel. Kekeli, une apprentie teinturière.
Sans mentir, j'étais pessimiste parce que je croyais que je n'allais pas arriver à apprendre un métier. Mais avec la formation et avec les conseils que nous avons obtenus en venant ici, j'ai appris qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur ce qu'on a eu au préalable, mais ce qu'on peut avoir dans l'avenir, ce qu'on a dans notre environnement peut nous aider à grandir. J'ai appris à avoir confiance en moi.
Mourifa est originaire de la région centrale où des cas de mariage forcé sont encore légion. De retour dans son milieu natal, Mourifa prend l'engagement de mener une lutte contre le mariage forcé.
Dans ma communauté, on peut forcer une fille à arrêter les études. Et on va la marier forcée pour donner à un homme. La fille est là-bas, elle souffre. J'ai décidé de me présenter dans le centre et apprendre un métier. Et après tout, aider les autres filles de ma communauté et mettre fin au mariage forcé.
Les produits issus du sang sont exportés notamment aux États-Unis sous AGOA sans droit de douane. Les revenus permettent de subvenir aux besoins des pensionnaires qui sont totalement pris en charge par le centre. Seulement, à la fin de leur apprentissage, les survivantes sont laissées à elles-mêmes. Certaines retournent dans leur milieu d'origine où elles sont de nouveau exposées à d'autres violences. Kailosson, de retour de Palimé pour VOA Afrique.
Au Nigeria, Olivia Onye-Maobi, 31 ans, fabrique des serviettes hygiéniques lavables pour les femmes et adolescentes vivant dans les zones rurales. Une première dans le pays et la sous-région. Notre correspondant Gilbert Tamba l'a rencontré sur le site de production. Voici son reportage.
Olivia a installé son centre de production à Mina, la capitale de l'État du Niger, à 160 km d'Abuja, la capitale fédérale. Dans ce centre, près d'une centaine de jeunes filles et garçons travaillent nuit et jour pour produire les coussins menstruels.
Les coussins ont un pouvoir d'absorption et sont faits pour résister. Ils ont un taux d'absorption élevé. C'est le résultat des recherches menées. Ils ne sont pas produits au hasard. Les matériels que nous utilisons ont un taux d'absorption élevé, de telle sorte qu'ils sont produits pour une bonne période d'utilisation.
Olivia Onye-Maobi dit que ces coussins constituent une solution abordable destinée à assister des femmes pauvres et les filles qui ont des difficultés financières pour acheter des coussins menstruels importés et jetables. Un sachet contenant 5 coussins menstruels coûte 750 naira, soit plus de 2 dollars américains. Plus d'un million de femmes ont déjà bénéficié de l'initiative d'Olivia, ancienne cadre d'une banque de la place. Chioma Iedoura, une jeune fille originaire de Mina, utilise les coussins menstruels depuis 2 ans. Elle témoigne de leur efficacité.
Le coussin est très bien. D'abord, le prix est abordable et est 100% produit chimique. Lorsque vous l'utilisez, il n'y a pas de crainte de démangeaison et d'infection comme toutes ces infections qui proviennent des coussins jetables parce que c'est 100% sans produit chimique.
Les enquêtes révèlent que de nombreuses femmes et filles pauvres utilisent des chiffons et autres matériaux très peu hygiéniques pour leur menstruation. À ce jour, les coussins menstruels produits dans ces centres sont vendus dans 13 pays africains. Mais quelle est l'efficacité des coussins menstruels produits par Olivia sur le plan médical? Rukaya Vamako est gynécologue. Elle nous explique.
It depends on how woman clean herself. It depends on how
ça dépend de la femme, comment elle se nettoie et comment elle prend soin d'elle-même. Certaines femmes ne sont pas propres, d'autres sont propres. Donc, si elle n'est pas propre, le lavage ne sera pas bon et ça ne va pas aussi bien sécher. Et au moment où ce n'est pas très bien séché, en quelques minutes, certains micro-organismes peuvent pénétrer.
Ces coussins menstruels réutilisables, très fins, avec un taux d'absorption élevé, mais résistant aux fuites et lavables à l'eau froide, après avoir mis dans l'eau pour seulement 5 minutes et dure jusqu'à 12 mois. Gilbert Tamba, Amina pour VOA Afrique.
Et Nathalie Barge avec vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. On reste en contact. À très bientôt.
Arrête.